saine cause, du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.
Bonjour, André Dunis, votre fidèle chroniqueur. Oh, on en est à 55 émissions, hein, ça continue, et je suis très heureux. Je salue Héloïse et compagnie et ses copains qui écoutent les émissions. Je croyais n'être écouté que par les croulants, mais non, les jeunes nous écoutent et nous le font savoir, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, ce sera notre maison France, notre maison, ce qui reste de démocratie, on va dire, Parlement et compagnie. Le minimum de contrôle est en train de brûler et notre planète, elle brûle en même temps. Et on regarde ailleurs, comme disait Hulot, conseillé par... Chirac, conseillé par Hulot, au sommet de Rio. Hein. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était très joli, c'était en 72, 50 ans après, rien n'a été fait, ou presque, et la maison, elle brûle vraiment. Et ce qui brûle vraiment aussi, c'est notre démocratie, parce que c'est incroyable, la dictature biomédicale, hein, et politique, qui prennent toutes les décisions dans une sorte de stratégie du choc pour nous indiquer ce que nous avons à faire. Je dis pas que tout n'est pas à faire, qu'il n'y a pas à lutter contre l'épidémie qui emporte surtout les personnes au système immunitaire fragilisé par l'âge, par les ce qu'on appelle les pathologies associées, hein. On a beaucoup de malades en France, c'est normal, on bouffe de la merde, hein, pleine de produits chimiques, on mange de la viande qui est élevée avec des tourteaux, 6 millions de tonnes sont importées d'Argentine, c'est des tourteaux arrosés, tourteaux de soja, hein, pressés pour faire de l'huile, et puis ce qui reste est donné à manger à nos bestiaux parce qu'ils n'ont plus assez de prêts, puisqu'on fait des fermes industrielles géantes. Bon, bref, tout fait que sur le plan de la bouffe, de l'hygiène de vie, du stress au travail, des déplacements où on perd son temps, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, parce que l'eau qu'on boit est polluée, évidemment, c'est pas Veolia, je lui ai demandé 10 fois, qui va nous dire s'il y a un peu de radioactivité, s'il y a des métaux lourds, s'il y a d'autres saloperies dans l'eau du robinet, puisque il y a plein de saloperies dans l'eau du robinet, en quantité minime, certes, mais qui, à force de la boire, finissent par nous fiche le cancer. Entre autres pollution. Donc notre maison démocratique, ce qui en reste, notre planète brûle et nous regardons ailleurs. Nous sommes sur une sorte de dictature. Voilà, on est assigné à résidence toute la population française. La décision, elle est prise d'en haut par un conseil de défense, personne ne sait qui y a et pourquoi. On prend un peuple en otage intellectuel, parce que ce peuple français, il est instruit, il n'est pas plus bête. Vous avez vu les milieux populaires gilets jaunes, comme ils ont été intelligents, quand ils se réunissent dans des cabanes et qu'ils réfléchissent, qu'ils lisent des journaux, qu'ils échangent des articles, des arguments de fond sur les réseaux sociaux. Je suis très opposé, moi, à cette Facebook, mais n'empêche que ça a permis la circulation d'un tas de consignes, mais aussi d'arguments, hein, c'est un effet secondaire, bien sûr que c'est l'essentiel, c'est pas bon, mais ça permet quand même des mobilisations et des échanges d'informations. On a un peuple intelligent, on a un peuple instruit, et on est là suspendu à la décision 5-6 personnes, on va essayer de voir que tout n'est pas bon dans tout ça, hein, on suspend nos libertés élémentaires d'aller et venir. On peut pas aller ni au théâtre ni au cinéma ni faire un café débat comme j'ai proposé à la bibliothèque de l'Épin ou à l'espace à Braguier, qu'on discute, bordel, qu'on puisse se retrouver en se mettant à 2 mètres les uns des autres avec un masque, mais dans une grande salle bien ventilée, qu'est-ce qu'on risque? Eh ben non, on peut pas se réunir à plus de 6, hein. Si on va se balader au bord du lac des Belettes, ben non, c'est affolant. Les mêmes mesures sont prises pour le 15e arrondissement et pour les plages ou les lacs. Tout se révèle dans cette crise de ce vieux système dans lequel nous vivons, une société où on nous a infantilisés, et ça continue, donc suspension des libertés élémentaires, comme la liberté de se réunir, je viens d'en parler, d'aller et venir, on peut très bien aller et venir, comme je suis allé hier, moi, voir une personne qui est vulnérable, hein. Je suis allé la déneiger, 100 mètres de déneigement, ça m'a fait les muscles. Bon, elle est à Saint-Aupre-le-Haut, s'il y avait 50 cm de neige. Bonté de bonsoir, si je m'étais fait ramasser par la police, j'étais pendant les clous. On ne peut pas ne pas se rendre compte que nos libertés de se déplacer, d'aider autrui, sont gravement menacées par des mesures prises d'en haut, alors qu'on pourrait très très bien les assouplir localement, les faire intelligemment et puis s'adresser à l'intelligence du peuple. Voilà, on ferme des commerces jugés non essentiels, d'accord. On a fermé des petits magasins. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui respectent pas. J'ai vu ici, il n'y avait même pas de masque, les gens se bousculaient pour acheter une paire d'œufs pour bio du tout. Ok. Mais quand je vois les grandes surfaces, que les gens se rincent même pas les doigts, qu'ils vont tripoter de le raisin, les légumes, enfin le raisin cette saison, vaudrait mieux éviter. Ils se disent, ils tripotent tout, ensuite ils mettent dans le sac, et ben ils ramènent chez eux le virus. Je suis désolé, si on ne se lave pas bien les mains avant de tripoter les légumes, tous, ben il suffit qu'il y en ait un qui soit covidé, il fout le covid à tous ceux qui achètent les oranges ou les pommes. Enfin c'est voilà. Alors ça, on laisse passer hein, l'immense contamination par les grandes surfaces, mais non, on ne pourra même pas aller au théâtre, au cinéma, se réunir, alors qu'au théâtre, au cinéma, ils laissent deux chaises libres sur trois, qu'on regarde tous dans la même direction, que si par malheur il y en a un qui tousse, et ben c'est en quinconce, et ben il y a personne devant, vous savez, en mettant en quinconce. Bref, on est privé de culture, c'est paraît-il non essentiel. C'est hallucinant. C'est le triomphe d'Amazon. Amazon, vous vous rendez compte, sa capitalisation, c'est supérieur à celle de l'État français. Mais où est-ce qu'on va? Amazon, c'est-à-dire des camions, bientôt des drones, qui viennent nous amener des marchandises commandées. Bah, c'est, il y a 22 millions de couillons de Français qui ont commandé par Amazon. Je répète, je redis, vous pouvez venir désosser mon disque dur, je ne regarde ni porno, ni je ne commande sur Amazon. On peut venir démonter mon disque dur, il n'y a aucun problème. C'est hallucinant de commander sur Amazon, et au détriment de tout, ça dézingue tout le système des circuits courts et des commandes qu'on peut faire dans son petit commerce en attendant deux jours de plus. Voilà, le triomphe d'Amazon, les géants du numérique, et bien évidemment ils sont tout contents parce qu'on n'a plus pour communiquer que de l'électronique ou de se branler devant les images d'autrui en train de se mettre à poil. Enfin, c'est pas ça l'amour, c'est pas le nanisme, c'est pas de se regarder à poil sur un écran, c'est de se voir, c'est de se parler, c'est de se comprendre, c'est d'agir ensemble pour un monde meilleur qui fait qu'on se rencontre et qu'on s'aime, mais pas ces trucs numérisés à outrance. Avec la 5G, qui c'est qui a décidé de la 5G en France? 67 millions de Français, un décideur. Je ferai la 5G. 67 millions de Français, qui décide qu'on fait un nouveau porte-avions atomique de 9 milliards? 9 milliards, plus que le déficit de la Sécu. Qui fait un porte-avions? Pour faire quoi? Ça va tuer le terrorisme? Ça va tuer le virus? Ça va tuer qui, un porte-avions atomique? C'est juste pour protéger les grandes multinationales françaises qui veulent piquer l'uranium au Niger, qui veulent assurer sa route du pétrole ou du gaz. Ça ne sert que les grandes sociétés françaises. Ça ne sert aucun Français d'avoir un porte-avions atomique, deux réacteurs. Non mais où est-ce qu'on va de faire un porte-avions? Qui l'a décidé? Monsieur Macron. Voilà. Écoutez, il a eu 13% des voix. Si on compte qu'il y a 4 millions d'électeurs, hein, 47 millions, plus 6, 7, 8 millions de mal-votants, c'est-à-dire des gens, ils étaient inscrits, ils sont barrés ailleurs, ils ne se sont pas réinscrits, il a eu 13% des inscrits et des mal-votants. Hein, on les compte pas, les mal-votants, mais si on les compte, donc ça veut dire 13%, ça correspond exactement aux plus riches de France qui ont choisi leur candidat des riches pour faire une politique de riches et surtout pour corseter l'opinion. Plus personne ne veut de ce système. Donc comme ils sentent que le sol se déroule sur leurs pas, ils font comme a fait l'Allemagne. Alors c'est pas la même chose, les comparaisons valent pas raison. Mais si vous voulez, quand on dit Hitler a pris le pouvoir par les élections, mais non, piège à con. Hitler n'a jamais pris le pouvoir par des élections. Hitler était en Allemagne en 1930 avec un président d'une république avec un président qui s'appelait Maréchal Hindenburg, un grand soldat de 14-18, un de ces bouchers comme on a eu en France, Pétain et compagnie, et qui faisait fusiller les gars qui voulaient fraterniser au front, enfin bref. Ils ont eu tellement peur de la révolution en Allemagne, où les spartakistes, les communistes, tout ça, pas les socialistes, et ils ne sont pas réussis à se mettre d'accord, ça a été ça la grosse connerie. En France, on a fait le Front Populaire, heureusement, sinon on aurait eu aussi le fascisme. Ils ont eu tellement peur de la révolution prolétarienne, appelez ça comme vous voulez, populaire, que les grands seigneurs de l'industrie, Krupp, IG Farben, Varta, tout ça, ils sont allés voir Hindenburg qui avait dit « Jamais, tant que je serai président, il y aura Hitler ». Ils sont allés le voir et ils ont dit « Hindenburg, tu prends Hitler ». C'est sur ordre de la bourgeoisie allemande qu'on a pris Hitler comme grand chancelier d'Allemagne. Et alors après, il a tout verrouillé, évidemment. Aux élections suivantes, il avait 36, puis après, il a eu 80%. C'est pas difficile. On a vu aussi dans les pays de l'Est, hein, comment, sans comparaison non plus, hein, les pays de l'Est, c'est pas le fascisme, puisque c'est quand même la Russie soviétique qui a tué Hitler, hein, je rappelle, juste en parenthèse, pour qu'on fasse pas des comparaisons terme à terme, que ces 28 millions de morts, dont 12 millions de soldats et de soldates, puisqu'il y avait beaucoup de femmes dans l'armée russe à l'époque, qui ont tué Hitler, hein. C'est pas les 300 000 Américains qui ont débarqué avec 60 ou 70 divisions au total, alors qu'il y en avait 220 sur le front de l'Est, hein, 60-70 divisions nazies sur le front de l'Ouest, en France. En Belgique, il y en avait 220 divisions, sachant que chaque division, en gros, c'est 120 000 hommes ou 130 000 hommes. Sur le front de l'Est, qu'est-ce qui a tué Hitler? C'est bien la Russie soviétique. Après, on peut lui faire toutes les critiques qu'on veut, et qui sont parfaitement fondées, que Staline a tué 8 millions de personnes, laissé mourir de faim des paysans. Ça a été une horreur absolue au nom du communisme, et donc il a tué. C'est un boucher de l'espérance. Mais ceci étant dit, ne mettons pas sur les mêmes plans.
C'est une menace. Un jour ou l'autre, ils auront mon regard en face de leurs yeux. Il faudra qu'un jour ils affrontent le regard de l'ensemble des mutinés.
Je trafique mon monde comme une garagiste. Je prépare les bombes comme un karachi. Je déclare pas mon nom, je suis qu'un parasite. Ouais, je suis pas non violente, mais je reste pacifiste. Je trafique mon monde comme une garagiste. Je prépare les bombes comme un karachi. Je déclare pas mon nom, je suis qu'un parasite. Ouais, je suis pas non violente, mais je reste pacifiste.
La nuit est jeune. La parole est au chat de gouttière. Les vacances sont finies, retour aux affaires. La parade se finira dans un tas de poussière. Une île de gravats en guise de station balnéaire. Qui en premier jettera la pierre? Qui fera tomber la barrière? Une balle dans la carotide. Quelle prochaine tombe au cimetière? Qui ne prendra plus part à la danse? Sera assigné à résidence. Qui paiera d'un de ses cinq sens? Qui inversera la tendance? Ouais, je trafique mon son entre deux hors-pistes. Je prépare une guerre sonore agressive. Je tombe à la joue quand je me prends une gifle. Frère, sur ma vie, je vais leur faire regretter leur optimisme. Il ne nous reste que la pierre. J'ai quelques idées en tête, de quelques vitrines en pièces. Si nous tombons par centaines, que cette étreinte funéraire fasse brûler leur bannière.
Je trafique mon son comme une garagiste. Je prépare les bombes comme un karachi. Je déclare pas mon nom, je suis qu'un parasite. Ouais, je suis pas non violente, mais je reste pacifiste. Je trafique mon nom comme une garagiste. Je prépare les bombes comme un karachi. Je déclare pas mon nom, je suis qu'un parasite. Ouais, je suis pas non violente, mais je reste pacifiste. Je trafique mon nom comme une garagiste. Je déclare pas mon nom, je suis qu'un parasite. Ouais, je suis pas non violente, mais je reste pacifiste. Je trafique mon nom comme une garagiste.
Voilà comment ça marche. C'est bien la bourgeoisie française qui a fait élire M. Macron. On n'est pas dans la même situation, mais il a fallu quand même le bouquin Crépuscule de Juan Branco pour nous apprendre, alors que tout le monde l'avait caché aux élections, que Macron est un ami intime de Bernard Arnault, notre premier milliardaire français, 135 milliards de fortune personnelle. Oui, avec ça, si on lui prenait sa fortune, tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Industrie du luxe, en plus, ça sert à personne, sauf aux ultra-riches. Un sac Vuitton, si vous payez un sac à 8000 euros, vous qui m'entendez, vous en avez rien à cirer. Ben voilà, c'est ça, l'industrie du luxe, c'est Vuitton, c'est tout ça, c'est LVMH. LVMH, c'est Bernard Arnault, c'est cette famille-là qui possède l'essentiel du capital et qui a ses 135 milliards et qui est le premier milliardaire français, le quatrième milliardaire mondial. Bon, eh ben, Macron était le grand copain de Bernard Arnault qui a donné beaucoup de pognon pour sa campagne. Alors, évidemment, on vérifie les comptes de campagne, mais enfin, on vérifie pas des liquidités qui se baladent à droite à gauche, des salles données gratuitement. Et surtout, on vérifie pas que Bernard Arnault, il a la main mise sur les médias, la télé. S'il n'y a pas de publicité de Bernard Arnault, la télé publique, la 2, eh ben, elle a plus de pognon. Si elle a plus de pognon, eh ben, sa concurrente privée 1, propriété de Bouygues, hein, du bétonneur Bouygues, eh bien, va lui manger la laine sur le dos. Donc, on fait pas de misère à ceux qui nous font de la publicité. Bref, l'essentiel des médias, 96% en France, hein, à part le Canard Enchaîné, le Monde Diplomatique, l'Humanité et quelques canards locaux, et sont tenus par les milliardaires. Voilà comment en France on a fait une élection. Donc j'en reparlerai dans la prochaine émission, sommes-nous en démocratie, mais on est là, avec fermeture des commerces jugés non essentiels, fermeture de tout ce qui est culture, interdiction de voir ses proches, amende en cas de défaut d'attestation, de déplacement, allez paf, 134 euros, parce que je vais voir ma copine à Saint-Aupre, non mais faut arrêter un peu les bêtises, qu'est-ce que je fais comme mal, je suis tout seul dans ma bagnole, elle est toute seule, on se met à 3 mètres, on mange, ben, la vaisselle, quand moi je reçois, c'est pareil, la vaisselle, il n'y en a qu'un qui la touche, se lave les mains chaque fois qu'on prend la cuillère de l'autre, et on n'a pas le virus depuis 9 mois, bien qu'on soit en ALD ou en fragilité. Les mesures sécuritaires ont été prises au nom de la lutte contre l'épidémie, mais ont conduit à une soumission inouïe de notre peuple. C'est inimaginable. Un peuple qui a fait, je ne sais pas combien de révolutions, hein, 89, 93, qui a fait la Commune de Paris, qui a fait 1830, les Trois Glorieuses, 1848, la Deuxième République, en battant les pavés de Paris, République d'ailleurs qui a été prise par Napoléon démocratiquement, comme aujourd'hui, notre démocratie, elle se vend au pognon. C'est pas une démocratie, c'est un régime parlementaire, mais je l'écris dans la prochaine émission. Hein. Donc, ça craint, hein. Il y a un bouquin là qui vient de sortir, La République en miettes, l'échec de la start-up nation. Il faut peut-être jeter un œil parce qu'il recense toutes nos atteintes aux libertés, depuis les lois antiterroristes, hein, qui en profitent pour restreindre notre droit de réunion, regarder ce qu'il y a dans nos portables, dans nos ordinateurs à distance. Non mais bon, il y a un moment donné, il faut se dire qu'on n'est plus du tout ni en démocratie, ni en sécurité. On est espionné sur tout ce qu'on fait. Imaginez qu'un régime ultra-autoritaire, allez à tout hasard le RN, qui n'est pas un parti forcément fasciste au sens hitlérien, on est bien d'accord, hein, qui est un parti populaire, mais imaginez qu'il y a une bande là-dedans qui reprenne le pouvoir et qui dise, bon, allez, monsieur Dunis, là, qui fait des émissions qui nous dérangent, viens le chercher, c'est pas difficile, il y a un drone qui sait où je suis, à 4 heures du matin, ils savent tout, et ils me récupèrent. Et on peut avoir, comme on a eu au Chili, des gens qui sont mis hors d'état de nuire. On pourra trouver toutes sortes d'arguments. Moi, c'est difficile parce que j'ai jamais fait de fake news. J'ai jamais dit qu'il y avait un complot juif mondial de grands banquiers pour nous foutre le microvirus. C'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. C'est déjà beaucoup plus grave. S'il y avait un petit complot de 5-6 personnes, ben on désingue les 5-6 personnes. En réalité, c'est beaucoup plus complexe et en même temps beaucoup plus simple. C'est les plus riches qui dirigent la planète. Hein. Je rappelle, hein, il y a 1700 milliardaires, allez, va, presque 2000. Il y a en France 3 millions de millionnaires. Ça suffit, ils savent se voir, ils gèrent les journaux, ils savent très bien gérer. Il y a un conseil de défense, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Ben, c'est eux qui gèrent notre crise sanitaire. Voilà, je suis un petit peu... que l'assignation à résidence, ben, c'est le paroxysme des atteintes à nos libertés individuelles. Voilà, j'ai pas dit qu'il fallait qu'on s'embrasse, qu'on se serre la main, qu'on se roule des pelles ou qu'on se roule des pétards et qu'on se les passe de lèvre en lèvre comme j'ai vu faire récemment, enfin pas récemment, il y a quelques temps, dans le coin. Ah non, ça c'est le virus assuré. Mais on est intelligent, on sait en gros comment marche le virus. Encore que je doute beaucoup, ayant fonctionné dans la machine éducation nationale, qu'on ne fabrique pas des crétins diplômés à la chaîne parce que beaucoup de gens ont oublié ce que c'était que la démocratie. Beaucoup de gens ont oublié ce que c'était notre histoire, faite de luttes populaires, hein, relire l'histoire populaire de la France. J'ai fait venir à la bibliothèque de l'EPAN, allez, pour ceux qui écoutent de ce côté-là, histoire populaire de la France, il faut absolument lire ça. On y a toutes les révolutions, comment le peuple s'est organisé. Il faut relire comment les gilets jaunes ont fonctionné. Il faut relire comment on leur a foutu la police. Donc ça, c'est ma dernière émission sur le bras avec une telle violence que plus personne n'ose de Pont-de-Beauvoisin aller manifester sur les Champs-Élysées, comme c'est un droit constitutionnel. Là aussi, ils ont tellement foutu la trouille et tellement réglementé ce droit que si vous allez à une manif avec simplement un petit bâton de randonnée dans votre coffre, ben, vous vous faites arrêter et interdire de manifestation. Où est-ce qu'on va ? Bon, alors, on y va. Alors, l'état d'urgence est devenu de plus en plus permanent entre la lutte contre le terrorisme et maintenant contre l'épidémie. C'est au nom d'eux. Hein. Depuis mars 2020, on a une situation sanitaire, certes préoccupante, hein. Je dis pas que c'est pas préoccupant, sauf qu'en Allemagne, il y a quand même beaucoup moins de morts pour 100 000 habitants, sauf qu'il y a toujours 25 000 lits de réanimation en Allemagne, et que nous, on n'a pas un seul lit de réanimation de plus. Je rappelle à nos chers auditeurs que vous êtes malade, vous êtes très pris et vous avez du mal à respirer, on vous emmène à Chambéry, les 18 lits sont occupés. Voilà, ils sont occupés depuis le début. On a évacué des gens sur Angoulême, enfin je suis un peu informé de ce qui se passe. Eh ben, vous avez 18 lits de réanimation pour une population de 100 000 habitants. Attendez, mais pourquoi on n'a que 18 lits ? Parce que depuis 30 ans, surtout les gouvernements socialistes et les gouvernements de droite, les uns et les autres ont supprimé 100 000 lits d'hôpitaux et des lits avec respirateurs. On aurait eu 25 000 lits, il n'y avait pas besoin de confiner. Je répète. Si la France avait conservé 25 000 lits, si la France avait conservé 1 milliard de masques et avait les renouvelés, parce qu'il y en a qui étaient obsolètes, anciens, hein, les premiers masques que j'ai eus, moi, chaque fois que je les mettais sur les oreilles, les élastiques s'arrachaient. Donc ça devait être certainement du mauvais masque, ancien et bon. Voilà, je rappelle les chiffres. Si on avait eu des masques achetés à l'époque où Salomon, là, le directeur de la santé, l'est mis en cause grave, j'espère qu'il ira au tribunal, pour avoir détruit les stocks et commandé seulement 100... Combien il a commandé 100 millions de masques ? Il en fallait 1 milliard, non, 10 millions. Et il en fallait 1 milliard. Non, mais ce type-là, il doit aller en tôle pour avoir mis en danger la santé de la population française. Voilà la réalité. On n'a pas de masques, on stocke pas des masques, on n'a pas de respirateur, on a désossé l'hôpital. Et ben voilà pourquoi on est sous un régime d'absence de liberté, c'est-à-dire on est confiné et on est dans cette espèce de comment on appelait ça, sous la libération, avant la libération, sous l'occupation allemande, on est en couvre-feu. C'est hallucinant les termes. Non. Bon, alors voilà. Alors les pouvoirs publics répondent à toute difficulté sociétale maintenant par un empilement de mesures sécuritaires. Allez, on te prend une loi par-ci, une loi par-là. Vous pensez bien qu'une loi contre les quelques milliers d'islamistes radicaux ou tout simplement les quelques assassins qui veulent régler leur compte à l'Occident et qui empilent avec eux toute la haine qu'ils ont accumulée entre nous, toute la haine qu'ils ont accumulée entre nous. Au fait, combien avons-nous détruit d'Arabes en Algérie ? Combien en avons-nous détruit en Tunisie où était mon frère dans l'armée ? Combien en avons-nous détruit au Maroc avant qu'il ait son indépendance ? Combien en avons-nous détruit en Irak ? Combien en avons-nous détruit en Arabie, les Anglais, les Français, les Américains, pour piquer le pétrole aux Arabes ? Combien de souffrances, de malheurs, de veuves, d'orphelins et de handicapés avons-nous fait avec nos guerres ? En Libye, on a bombardé la Libye en disant « Kadhafi, c'est un assassin, il va nous raser Benghazi ». Ok, on a bombardé. Et puis, il est resté quoi ? Ben maintenant, c'est avec des bandes armées, c'est avec des trafics, c'est des passeurs qui font se noyer en Méditerranée, 30 000 types, parce que la Libye, c'est devenu un champ clos de forces diverses et variées. Il n'y a plus d'État. Vaut mieux un État qui organise quelque chose comme le ravitaillement de sa population, plutôt que rien, où c'est plus que les bandes armées, les bandits, qui organisent le racket des populations civiles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la France qui a bombardé la Libye avec un aval in extremis de l'ONU, mais qui est allé beaucoup plus loin que le mandat de l'ONU. Charmant, tout ça pour quoi faire ? Pour piquer le pétrole de la Libye. Parce que la France a eu tout de suite un accès très intéressant aux livraisons de pétrole. D'ailleurs, le peuple libyen, il ne sait même pas combien on paye la tonne de pétrole brut qui part des tuyaux pétroliers pour arriver à Marseille pour le raffinage. Donc il faut essayer de faire marcher nos intelligences, puis il faut qu'on se rebouge vraiment ce printemps. Voilà. Alors, on a toutes ces mesures ont affaibli notre état de droit. Il y avait un minimum de garanties par-ci, par-là. Et ben, petit à petit, on les perd. Sur la garde à vue, c'était 24 heures, c'est 48 heures. On manifeste, c'est ma précédente émission, hein. On a une police qui est pas, bon, je vais pas revenir sur la police, mais je voulais y revenir justement quand même, mais ça sera une prochaine émission. Comment on peut réformer notre police structurellement raciste, structurellement violente? Ben, pas seulement structurellement. Structurellement, parce que tout le commandement hiérarchique couvre les exactions de la police. Qu'est-ce que fait le préfet allemand? Si ce n'est de couvrir toutes les violences qui ont été commises contre les gilets jaunes. Je répète, sept yeux perdus, 25 mains arrachées, 2000 blessés. Il a tout couvert, l'Allemand, à Paris. Donc, et puis il a déclaré à une dame gilet jaune qui lui disait, mais monsieur, pourquoi vous faites autant de violences? Pourquoi des réactions si violentes? Vous êtes des gardiens de la paix, vous devriez pas aller au contact, vous devriez pas gazer, vous devriez pas mettre dans des poches des nasses, mais simplement faire des médiations, discuter, essayer de voir comment vous pouvez isoler quelques casseurs, qui sont souvent d'ailleurs de la police. J'ai été témoin à Grenoble d'un coup comme ça, un mec qui est rentré dans un fourgon de police après avoir jeté un pavé. Fermons la parenthèse, c'était il y a longtemps, hein. Je peux pas retrouver tous les témoins de l'époque, mais on s'est fait gazer immédiatement, puisque dès que quelqu'un balance un pavé, c'est la charge des CRS assurée. Mais qui avait balancé le pavé? Ben, c'était juste pour pouvoir réprimer la manif. Donc, on sait très bien toutes ces manips. Ben, c'est la hiérarchie. Il y a des flics honnêtes, sympas, ben, moi j'en connais, qui ne vont pas vous taper dessus. Mais pourquoi ils tapent dessus? Parce qu'ils ont aussi les ordres. Qui donne les ordres? Le préfet allemand. Qui donne des ordres au préfet allemand? Le ministre de l'Intérieur Darmanin. Qui c'est qui donne les ordres à Darmanin? Eh ben, le président de la République, celui qu'on a élu avec 13% au premier tour, et face au chiffon rouge Le Pen, eh ben, avec une majorité au deuxième tour, parce qu'on s'est fait bananer. En tout cas, moi, je n'ai pas voté au deuxième tour, et je m'en félicite tous les jours. Tout le monde a accepté d'être confiné pendant 55 jours à ce printemps, sans même se poser la question de savoir si ce confinement n'était pas disproportionné par rapport aux enjeux de santé publique. Parce que peut-être qu'il y avait une autre solution. S'il y avait plus de lits, si on était instruit de comment se protéger du virus. Vous allez à Super U, à Pont-de-Boisin. Les trucs, là, ils sont dans un coin. J'ai gueulé. Ils les ont rapprochés un peu de l'entrée. On ne rentre pas dans un magasin sans se nettoyer les doigts. Je l'ai répété tout à l'heure. Eh ben, c'est dans un coin. Et c'est là que se font les contaminations. Pas dans une librairie qu'on a laissée fermée. Dans une librairie, bien sûr, vous tripotez les livres, mais dans une librairie. Il y a à l'entrée, je vois maintenant, partout, des produits qui coûtent cher d'ailleurs, et dont les trois quarts sont inadéquats. Vous avez vu ça? Les multinationales se sont rincées les bénéfices, puisque trois quarts des fameux rince-doigts gel hydroalcoolique n'ont pas assez d'alcool pour pouvoir tuer le virus. Trois quarts. Mais c'est hallucinant ce qui se passe. On est dans un système capitaliste, pas la peine de faire des fake news ou de faire du complotisme. Tous ceux qui possèdent les moyens de produire font du racket pour faire du profit. Ils vont vous mettre moins d'alcool. Ils vont donner l'ordre aux ouvriers de ne pas en mettre 60%, mais d'en mettre 55%. Et vous chopez le Covid, mais ils s'en foutent. Allez prouver que c'est à la faute du gel qui est à l'entrée de Super U. C'est impossible à prouver. Ils le savent. De même qu'ils mettent des saloperies dans les pizzas surgelées, hallucinantes. Va-t'en prouver que cette saloperie vous a mis, il faut vraiment avoir une grosse infection pour qu'on remonte la chaîne. Eh ben, c'est comme ça, on écoule un tas de saletés pour faire un tas de profits. Il n'y a pas besoin d'être, complotiste pour arriver à bien analyser dans quelle société nous sommes où le capitalisme a pris le pouvoir de partout, même y compris localement. Il y a des petits capitalistes locaux qui tripotent les fesses de leurs employés, qui leur font faire des heures sup non payées. Il y a des plombiers locaux qui vous prennent 170 euros pour remplacer le tuyau derrière, qui est en panne en plein week-end, en plein samedi, derrière votre chasse d'eau que vous pouvez plus éponger, que vous pouvez pas, bon. Eh bien, ils vous prennent 170 euros pour une demi-heure de boulot. Attendez, ça, c'est du petit capitaliste local qui veut faire des ronds sur le dos des braves gens. Bon. Dans ces cas-là, vous les mettez à la préfecture, hein. Vous envoyez à la préfecture un petit mot pour dire voilà ce qui s'est passé. J'étais coincé et on m'a fait payer 170 euros pour remplacer un bout de tuyau. Et comme ça, peut-être qu'un jour, il y aura un contrôle. Remarquez, hein, pour l'inspection du travail, c'est 3200 inspecteurs pour 2 600 000 entreprises. Et puis pour l'inspection des fraudes, c'est à peu près la même chose pour autant d'entreprises. C'est vrai que c'est... il faut tripler, quadrupler tous ces contrôleurs fiscaux, tous ces gus. Je vois qu'Airbnb vient de faire un max de bénéfices et entrer en bourse. Mais Airbnb, si tout le monde dit, mais t'es un vrai con, André, maintenant tu prends une locataire, mais tu devrais prendre ta Airbnb, tu déclares rien, hein? Tu fais un parking, tu déclares rien. Tu fais une cabane, tu déclares rien. Mais dès que tu déclares, bien sûr, t'as des taxes. Moi, j'ai tout déclaré, hein. Bon, une personne, une amie, hein, qui vient à la maison, eh ben, j'ai dû payer 800 € pour les eaux usées. Bon, vas-y, elle tire la chasse une fois tous les deux jours, comme moi, parce que moi, je lave mes salades, mes patates, et ensuite, je mets dans les chiottes. Donc, je tire pas la chasse. Ou, exceptionnellement, s'il y a des visiteurs, pour que ce soit nickel. Voilà. Eh ben, je paye 800 € cash pour, bon. Vous voyez ce qui se passe? Là, on est dans, au nom de la santé publique, la vie quotidienne de tout un peuple a été mise sous séquestre. Je sais pas, mais on a toutes ces lois les unes derrière les autres, la loi de 55, la loi du 23 mars 2020, la loi de 2017 contre le terrorisme, 2015 contre le terrorisme. On a eu 67 millions d'assignations à domicile 23 heures sur 24 de toute la population, 67 millions qui ont été assignés à domicile. Mais ça, on le fait en cas de guerre absolue. C'était pas une guerre, on n'est pas en guerre contre le virus. On fait tout pour que le virus ne circule pas. Mais c'est pas là, ça veut rien dire la guerre. Et ça, c'est un prétexte pour que la classe dominante et les plus riches puissent contrôler le peuple et l'habituer à ça, à être passif. C'est vrai qu'à force d'être isolés les uns des autres, à ronger notre frein dans les baraques, eh bien, on prend acte que notre société nous a divisés. Si notre société n'était pas aussi, atomisée, on serait pas atomisé. Je veux dire, si notre société n'avait pas été organisée pour que les associations n'aient plus de place, que tout soit commercial, qu'il n'y ait plus une rue. Avant, dans les rues, il y avait des locaux d'associations, des cafés, des bars, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des magasins du petit capitalisme ou du grand capitalisme, des succursales multiples, qui vous vendent des trucs dont vous n'avez rien à cirer. Et au lieu de ça, on devrait avoir des rues piétonnes où on puisse discuter autour d'un café municipal ou citoyen, on puisse jouer, que les enfants puissent s'égayer dans les rues. Ouais, mais il faut chasser les bagnoles des villes et tout ça. Voilà, donc ce fichu virus sert de prétexte à une oligarchie politique qui gère l'État, que nous avons hélas légitimé par du vote, sans trop réfléchir, et qui maintenant nous tient en laisse, comme des toutous. Nous sommes en train de jouer avec le feu, ils jouent avec le feu, d'absence de liberté. On est un peuple en cage, on est une maison des droits individuels, de l'état de droit. Ben, c'est notre maison France des droits, elle brûle. On ne peut plus dire qu'on est la patrie des droits de l'homme, ça commence à me faire rigoler. Et on regarde ailleurs. Voilà. Alors, quand vous pensez qu'Olivier Véran, à l'Assemblée, insulte l'Assemblée nationale en disant « Je sors de l'hôpital, j'ai eu des gens respirateurs, c'est affreux !» Il était furieux de voir que la décision que le gouvernement avait prise de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021, le Parlement n'était pas forcément d'accord. Et ce Parlement n'était pas d'accord parce que les députés de l'ARM qui sont des godillots, ou comme dit Ruffin, des Playmobil, qui votent exactement ce pourquoi ils ont 6 000 euros par mois, hein, 5 700 euros par mois, ils ont été recrutés par voie d'annonce, ils se sont présentés, ils ont emporté quand on voit que, bon, une gamine, soyons pas méchants, elle est sympa, hein, je l'ai rencontrée 2-3 fois, mais une gamine est députée de notre circonscription, elle, quand on lui pose des questions, elle a son conseiller à côté, elle ne connaît rien à rien, franchement, à 23-24 ans, députée, mais franchement, les bras m'en tombent. Nous, on a mieux à l'EPAIN, hein. On a 3 agents immobiliers sur 11 conseillers. Imaginez qu'il y ait 3, éleveurs de cochons sur 11 conseillers. On dirait, au secours! Et ils veulent faire du cochon partout! On a 3 agents immobiliers, ils veulent faire 88 maisons. En plus, le maire se pointe chez moi, à 9h du matin, il pousse un portail qui est fermé, et il vient me dire, si vous mettez des papiers dans les boîtes aux lettres, je vous poursuis. Attends, où est l'état de droit? À mon âge, 79 ans, je n'ai eu aucune visite pour me dire, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Rien, ni coup de fil, ni que dalle. Les communes dans le coin, là, à part celles de Dulin ou d'Ayen, qu'est-ce qu'elles ont fait pour les petits vieux ou les gens âgés, qui ont pas mon énergie, qui sont dans la merde et pour qui les courses ont été une galère? Rien! Et au lieu de ça, on vous fait des menaces parce que vous avez un droit d'expression à la radio et que vous avez le droit d'écrire que c'est une folie furieuse autour de ce lac. Donc, je termine là-dessus, vous savez, positivement, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il va falloir sérieusement se prendre en main, des collectifs citoyens partout dans tous les patelins, dès qu'on sort du confinement, des cafés débats, à Agoraglier, dans les bibliothèques municipales, partout où il y a de l'espace public, où il en reste encore un peu, hein, puisqu'on peut pas en faire dans les commerces privés, naturellement, hein. Il va falloir qu'on s'assure d'abord de l'eau à boire. Je sais pas si vous avez vu l'ONU, elle a quand même voté une résolution pour le droit à l'eau. Tellement nos sociétés comme Veolia et compagnie sont en train d'acheter partout des territoires où il y a de l'eau souterraine, propre, pour la revendre ensuite parce que partout se fait la grande marchandisation de l'eau, parce que l'eau vient à manquer un peu partout. D'abord dans le sud, mais elle commence à manquer en Chartreuse, dans 700 communes de l'ouest, où on commence à dans 70 d'entre elles, c'était il y a deux ans, à livrer par des camions-citernes. Eh bien, il faut que le lac d'Aiguebelette devienne une propriété publique. Les communautés de communes, ou la région peut-être, ou les deux, trois départements limitrophes, deviennent propriétaires et que nous élisions des gens qui gèrent cette ressource qui est un bien commun. Voilà, et qu'on le gère ensemble et qu'on y remette éventuellement des pêcheurs professionnels avec moins de prises et que ce lac soit protégé. Donc première chose, l'eau. On rachète l'eau et le site et on le rachète à EDF hein, et on le rachète à la Comtesse puisqu'ils sont deux propriétaires du lac. Comment un lac qui est la plus grande réserve d'eau, buvable encore par les vaches et par les humains, puisse être... Ben, regardez ce qui va se passer. Veolia et des grandes multinationales françaises vont racheter ce lac à EDF, qui est en train d'être privatisé. Hein. Il y a quatre filiales maintenant privées. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont racheter ce lac. Les héritiers vont être tout contents de vendre le lac. Bilan des courses, eh ben, après, à Chambéry, les copains, vous payerez l'eau en Chartreuse, où vous manquez d'eau. Les camions-citernes, bon, il faut la filtrer un peu, hein. Mais... Eh ben, vous la payerez, l'eau. Et puis à Bourgoin, vous allez manquer d'eau. Vous la payerez, l'eau. Vous payerez l'eau partout. Or, vous avez la plus belle réserve. Eh ben, cette réserve doit être publique. Et elle doit même être un bien commun. La différence entre un bien public et commun, c'est que commun, c'est les habitants qui décident. Les habitants, de l'Isère, de la Savoie, et peut-être de l'Ain, enfin, les limitrophes, quoi. Au moins, et si ce n'est au plan national, qui pourrait être aussi une réserve nationale. C'est maintenant le parc de Chartreuse qui arrive jusqu'ici. Deuxième chose, la turbine de la Bridoire. Pourquoi elle est privée, la turbine? Elle fait 44 000 personnes en électricité. Ben, qu'elle redevienne publique, aux mains des mêmes. Et avec cette turbine, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait le tramway Saint-Béron, par le col, par de Porte, si, c'est le col de Porte, qui permet d'aller à Saint-Égrève, qu'il y avait avant. Comme ça, on n'aura pas des millions de bagnoles qui traversent la Chartreuse qui sont en train de la tuer. On remet avec cette turbine en route un tramway. Ça coûte pas cher faire un tramway en suivant. Les voies, elles sont toutes droites. Il n'y a qu'à faire un petit talus. Hein, et on reprend le tramway alimenté par la turbine hydroélectrique du déversoir du lac d'Aiguebelette. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est ça qu'il va falloir faire. La maison brûle. Le climat fout le camp. Il faut sauver les forêts, dont celles de Chartreuse, qui vont bientôt brûler, puisque ça réchauffe trop vite, il y a beaucoup de résineux. Sauvons, plantons des feuilles, et mettons le tramway, et arrêtons avec ce qui fait du gaz à effet de serre, c'est-à-dire les 30% de gaz à effet de serre, c'est les déplacements, surtout en bagnole, en camion. Voilà pourquoi il faut arrêter avec Amazon. Amazon devrait être interdit. C'est ceux qui font le plus de croissance en camion. Il faut remettre le TER, il faut remettre 16 allers-retours TER. Donc là, vous êtes en train d'écouter l'émission qu'on a faite sur le TER. Eh bien, il faut remettre du TER partout. Si on veut aller pour des questions administratives, parce qu'on n'arrive pas à faire ses papiers par électronique et tout, eh ben, on prend le train à Lépin et on descend à Chambéry 15 minutes après, 20 minutes maximum. Et puis, on va à la préfecture, on va à la DAS, on va faire ses papiers. Ou, à la limite, on prend le train à Lépin et on va faire ses courses à Pont-de-Beauvoisin. Après tout, ça fait quoi? Ça fait 300 mètres pour descendre dans la zone commerciale. Voilà. Mais le mieux, c'est d'avoir des petits commerces, voire même des commerces municipaux. Il est tout à fait possible que les communes fassent des magasins municipaux, les producteurs locaux. Voilà. Il faut absolument que se crée le GFA de l'avant-pays savoyard, groupe foncier agricole. Pour l'instant, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de GFA. Et il faut qu'un organisme géré par les paysans et par les élus préempte les terres agricoles contre les spéculations qui font que 88 maisons en projet à Lépin, vous avez vu la saignée sur Saint-Alban, il faut arrêter immédiatement tous les PLU destructeurs de nos terres vivrières qui vont nourrir nos enfants et nous nourrir nous avec l'eau du lac. Voilà, il faut faire une radio locale ou une antenne locale de Radio Chartreuse, pourquoi pas. Et je termine là-dessus. Quand j'étais à Valence, j'avais proposé, tout le monde avait rigolé, y compris les Verts. Valence, il y a le Mistral, le Rhône est nord-sud. Le Mistral, c'est 3 jours, 6 jours, 9 jours. J'avais dit, on prend des petites éoliennes fabrication française, on en met, je sais pas, 300-400, fabrication française, petite éolienne, recyclable, hein. On les fait tourner avec des ponts en acier sur le Rhône. Elles pompent l'eau, non pas du Rhône, mais de la bonne eau de descendant de, du Vercors. On fait un lac de 400 000 mètres cubes ou 300 000 mètres cubes au col des Limouches, qui est à 900 mètres d'altitude au-dessus de Valence, de la plaine de Valence. Et on fait des truites. On fait un lac qui, quand il y a beaucoup de vent, l'eau est remontée du deuxième lac qu'on fait en bas, puisqu'il y a 400 000 habitants, il n'avait même pas de lac de baignade. C'est hallucinant, on a des élus là-bas, Andro, Mardèche, on n'aurait pas été foutu de faire un lac de baignade pour les habitants. Tout est privé. À Bourg-en-Bresse, il y a un lac. À Sisteron, il y a un lac. À Digne-les-Bains, il y a un lac. Fait par un... et gratuit. Ils sont gratuits. Et là, on pouvait faire un lac de réception de l'eau. Alors, vous avez saisi que la ville de Valence pouvait très bien, elle n'a pas voulu le faire quand elle était socialiste et verte, de faire des éoliennes sur le Rhône, de pomper l'eau dans un lac en bas dans la plaine de Valence, avec pêche, baignade. Ce lac, remonter l'eau quand il y a trop de vent des éoliennes, parce qu'on peut stocker l'électricité sous la forme de stockage de l'eau. Voilà. Et donc, on remontait l'eau, on mettait des truites à 400 mètres dans le lac, parce que c'est oxygéné et tout ça, et quand il y avait besoin d'électricité, il n'y avait plus qu'à faire descendre l'eau dans les turbines, et la ville était autonome, ou pouvait quasiment être autonome, 60 000 personnes pouvaient parfaitement être autonomes. Ben aujourd'hui, on veut faire des forages géothermiques, ben voyez à Strasbourg, ils ont fait des forages à 5 000 mètres de profondeur, ça coûte la peau du cul, ça devait faire de l'électricité et du chauffage pour 20 000 habitations, et ben tremblement de terre, on abandonne. Et ben à Valence, la même société Fonroche veut faire un forage. Ils font des ronds, ils font le forage, on paye les forages, et après on se rend compte que ça marche pas. Alors qu'on aurait pu faire ça, ben ici, prenons la turbine, et prenons le lac, refaisons du tramway, partout, refaisons du débat, de la culture. Quand je vois mes amis musiciens qui peuvent même plus jouer, qu'est-ce qui empêche de jouer sur une place publique, avec une bonne petite sono, en se mettant à 3 mètres, est-ce que ça va tuer le... Le virus va pas circuler, on va s'y prendre comme il faut, et au moins on aura du bonheur à écouter de la bonne musique, et ça va nous permettre d'éviter que, écoutez bien, 30% des Français déclarent qu'ils sont en troubles psychiatriques, qu'ils vont mal, qu'ils dépriment, qu'ils sont angoissés, qu'ils commencent à avoir des troubles, disons, de paranoïa associés. Bon, on va très très mal. Le troisième choc, comme disent beaucoup de gens, ça va être le choc psychiatrique. Des entrées en masse dans les hôpitaux psychiatriques. Ah oui, en masse? Ben non. Il n'y a plus de lit. Je vous remercie. Si vous êtes en désaccord, le mieux c'est de m'appeler au 06 75 80 05 79 et faites comme ces petits jeunes qui m'ont laissé un petit mail qui m'a fait plaisir, ainsi que d'autres de Pont de Voisin ou d'ailleurs qui regardent en podcast. Vous tapez radiocouleurchartreuse.org, vous allez à émission, vous allez à info locale et générale, vous descendez un peu, vous avez la Seine Cause, la Seine c'est mon association, coordination de la nouvelle éducation populaire, et vous tombez sur 55 émissions, très bien présentées, merci pour les pros de Radio Couleur Chartreuse, parce qu'il y a à la fois un dessin et deux fois des musiques que vous n'écouterez presque nulle part ailleurs. Au revoir.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.